Sécurité globale, principes républicains. En cette saison d'automne 2020, en France, le pouvoir affirme son autoritarisme à travers deux projets de loi réactionnaires. De leur côté, depuis 43 ans, les associations de victimes des violences policières ont recensé au moins 676 personnes tuées par les forces de l'ordre. Pour prendre un peu de recul sur cette politique de violence d'État, la cucaracha ressort de ses tiroirs un son enregistré il y a presque 3 ans en Argentine. Là-bas, entre 1976 et 1983, sévissait une dictature civile et militaire dont les forces de sécurité ont assassiné et fait disparaître des dizaines de milliers de personnes. La dictature avait pris le pouvoir pour imposer un système économique ultralibéral violent sans s'embarrasser de discussions. Les forces de l'État argentin ont été formées et entraînées dans les années 70 par des détachements de la gendarmerie française. 40 ans plus tard, les familles des disparus cherchent encore leurs traces. En 1983, au retour de la démocratie, la terreur a pris fin, mais l'ultralibéralisme a continué à s'imposer de plus belle, avec l'aide de forces de sécurité à la gâchette facile. Depuis 1992, la Coordination contre les violences policières et institutionnelles, la COREPI, compile des informations sur ces assassinats et publie un rapport qu'elle présente publiquement chaque fin d'année sur la célèbre place de mai de Buenos Aires, symbole de la lutte contre la dictature. Le 22 février 2018, à Villa Carlos Paz, dans le centre de l'Argentine, la famille de Franco Amaya commémorait la mort de ce dernier. Il avait été tué un an plus tôt d'une balle dans le dos, tirée par un flic alors qu'il venait de fuir un contrôle routier en moto. Franco avait 19 ans. Suite à la commémoration, des membres de la COREPI étaient venus présenter leur tout dernier rapport lors d'une discussion intitulée « La gâchette facile, une politique d'État ». À leur côté, une avocate du FOCOF, le Front organisé contre la loi provinciale contre les incivilités, a porté un éclairage juridique sur cette question. On les écoute ici développer leur analyse de la gâchette facile, cette politique qui protège et encourage les forces de sécurité argentines à utiliser leur arme à feu lors des interpellations, tuant une personne toutes les 20 heures en moyenne en 2020.
Por un lado, la COREPI es una organización que trabaja en el campo de los derechos humanos para erradicar las políticas represivas de Estado.
D'une part, la COREPI est une organisation qui travaille dans le domaine des droits humains pour éradiquer les politiques répressives de l'État. Ses objectifs principaux sont de caractériser, dénoncer, diffuser des informations sur les violences institutionnelles et de promouvoir la lutte antirépressive. La COREPI existe depuis déjà plus de 25 ans au niveau national et l'antenne de Córdoba s'est constituée en septembre de l'année dernière, en 2017. D'autre part, la FOCOF est composée des collectifs suivants. Le collectif révolutionnaire Zafarancho, la convergence des organisations, démocratie socialiste, le groupe Marabunta ainsi que des militants autonomes. La FOCOF travaille depuis des années dans notre province pour exiger la justice pour les jeunes assassinés par la police. Du coup, voilà, les camarades de la COREPI et Victoria, vous pouvez venir, vous pouvez vous installer et on va pouvoir commencer.
Bonsoir. Alors, comme vient de le dire le camarade, la COREPI, c'est une organisation politique de défense des droits humains qui travaille au service du peuple et des travailleurs. Parce que dans le système social dans lequel on vit, la richesse, elle est dans les mains de peu de personnes, du fait de la faim et de l'exploitation d'une majorité de personnes. Et quel que soit le gouvernement qui travaille à soutenir cet ordre social-là, il a besoin d'outils de discipline et de contrôle. Et alors, ben voilà, c'est comme ça qu'il le soutient. Et alors, comme l'a aussi dit le camarade, la COREPI est une organisation qui a 25 ans d'existence. Et disons, à Córdoba, la COREPI, on s'est lancé il y a peu, quoi, il y a quelques mois. Donc on est un peu nouveau. Et ça vient d'une idée générale, d'étendre les outils et les connaissances de l'organisation dans les autres provinces. Et enfin bon, principalement pour ces raisons, d'étendre les outils et pouvoir mettre en évidence que la répression n'a pas lieu à un seul endroit, mais dans tout le pays. Et bon, aussi parce que une autre raison importante, c'est que Córdoba est la troisième province la plus répressive du pays. La première, pour des questions démographiques et d'espace géographique, c'est Buenos Aires, c'est la principale. La seconde, c'est Santa Fe. Et la troisième, c'est Cordoba.
Bueno, se nos pidió como Correpi desarrollar el tema de la responsabilidad del Estado en los casos de gatillo fácil.
Alors, on nous a demandé comment la Correpi travaillait le thème de la responsabilité de l'État dans les affaires de gâchette facile. Et les affaires de gâchette facile, ce ne sont pas des assassinats comme les autres, parce que c'est des assassinats perpétués par des personnes qui ont intégré la force de l'État et qui ont des armes que l'État leur donne, que l'État paye, les contribuables leur payent ces armes, et avec ces armes, ils tuent, généralement dans le dos, parce que la majorité des cas de gâchette facile se caractérisent par un tir dans le dos. Du coup, comme fonctionnaires publics, normalement, ils ont le devoir de protéger, d'apporter de la sécurité, mais avec l'arme avec laquelle ils devraient apporter de la sécurité, ils tuent. Et ils ne font pas que tuer avec ces armes. La police torture aussi dans les commissariats. La police, la gendarmerie, les forces nationales font disparaître des gens, violent les droits humains, et ce, systématiquement, depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui. Donc la période démocratique aussi nous apporte de la répression, nous apporte des tortures, nous apporte des disparitions.
Bonsoir à tous et à toutes. Comme vient de le dire le camarade, pour nous, en tant que Correpi, et disons depuis la naissance de la Correpi, on pointe la responsabilité directe de l'État. Et nous disons qu'il y a une politique de la gâchette facile dans toute la période démocratique qu'on est en train de vivre. Depuis la naissance de la Correpi vers 91-92, aucun ministre de gouvernement démocratique n'a pu démentir les rapports que nous avons pu rédiger avec tous et toutes les camarades de la Correpi. Et je dis ça parce que récemment, le ministre de l'Intérieur Bullshit s'est aventuré publiquement, pas seulement à soutenir et à promouvoir la politique de la gâchette facile comme politique d'État, mais aussi à dire que notre rapport ment. Nous, on dit qu'aucun ministre de l'Intérieur n'a pu démentir aucun rapport que nous avons présenté jusque-là sur la place de Mai de Buenos Aires. Je ne sais pas si, Julien, tu as les chiffres.
C'est très sensible en vérité parce que ce ne sont pas seulement des chiffres. Parce que ces chiffres, en fait, ce sont des personnes derrière. C'est par exemple Franco qui a 18 ans. C'est terrible. La majorité des affaires de gâchette facile, la majorité des personnes tuées par balle, 50%, ce sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc non seulement la police assassine, mais elle assassine des jeunes. On vous a ramené les chiffres. Alors 47% des personnes tuées par les forces de l'État sont des cas de gâchette facile. C'est la première cause. Donc ça veut dire que non seulement l'État assassine par balle, mais en plus il assassine principalement, majoritairement par balle. Après ça, directement après, viennent les morts dans les commissariats, les morts dans les centres pénitentiaires. Par exemple, il y a quelques semaines, là, on a eu le cas de Jonathan Centeno. La police l'a embarqué un samedi et le lundi, il était mort et il n'y a pas eu d'explication donnée sur les causes de sa mort. Quelles sont les causes? Quelle est la responsabilité de l'État? Est-ce que c'est de protéger les personnes? Il ne faut pas oublier que l'État nous dit qu'il nous protège toutes et tous. Clairement, on voit bien que non, il ne nous protège pas toutes et tous. Ou du moins, ses forces de sécurité n'ont pas cette politique de nous protéger. Ils ont la politique de maintenir une fracture entre les gens pauvres et les gens riches. On a aussi 4% de ces morts-là qui sont des cas de disparition forcée. Et on a aussi un tas d'autres cas, d'autres affaires. On a des cas à Cordoba. Et après, il y a 1% d'affaires de meurtres en mobilisation. Sous Macri, là, il y a déjà des premiers morts, comme Rafael Nahuel, qui a été assassiné lors d'une mobilisation. On a aussi 1% qui sont des cas divers, dont on ne peut pas déterminer vraiment la responsabilité ou les causes, ou peut-être parce que notamment on n'a pas l'information, parce que la responsabilité de l'État c'est aussi ça, c'est invisibiliser les cas dans lesquels la police assassine. La justice fait rien, ou alors elle étouffe les affaires, ou alors elle dit que ça a été de l'abus, ça a été une bavure. À la Corepi, nous on dit que non, c'est pas des bavures, c'est une politique de l'État. Parce que si chaque année, depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, la police tue encore et encore et encore, du coup, pourquoi est-ce que l'État ne développe pas des outils? Pourquoi l'État ne juge pas? Pourquoi est-ce que la plupart du temps, l'État cache les causes? Et en rapport à ça, il faut dire que justement, la répression, elle n'a pas commencé hier, elle ne commence pas aujourd'hui, elle n'a pas commencé l'année dernière. Franco, malheureusement, c'est une partie de cette énorme liste. Et à Cordoba, on a 410 affaires de meurtre entre les mains des forces répressives. Et si on se réfère à une moyenne nationale, eh ben, on a un meurtre toutes les 23 heures aujourd'hui.
Sí, el gobierno anterior nos dejó un muerto cada 28 horas. Tampoco ese informe lo pudieron desmentir, digamos, del gobierno anterior. Y este gobierno, digamos, avanzó un poco más. Tenemos un muerto cada 23 horas, lamentablemente.
Oui, le gouvernement précédent a un bilan d'un mort toutes les 28 heures. Ce gouvernement n'a pas pu démentir non plus nos rapports. Et le gouvernement actuel fait malheureusement pire, avec environ un mort toutes les 23 heures. Et je voudrais aussi préciser que notre organisation, la Corepi, est composée de plusieurs, beaucoup de jeunes qui essayent de faire quelque chose face à cette répression, mais aussi des membres des familles des victimes de la politique de la gâchette facile. Moi, dans mon cas, je viens du même quartier que David Ernesto Moreno, l'enfant de 13 ans qui a été assassiné pendant l'insurrection populaire de 2001.
Et donc, pour dire à les familles de Franquito, es, digamos, nosotros siempre proponemos que, reforzar la unidad del campo popular ante esta situación y la lucha.
Je veux dire à la famille de Franco que ce qu'on veut, c'est renforcer l'unité des classes populaires face à ces situations et aussi la lutte et la visibilisation. Et il faut savoir que dans le cas de David Moreno, on a obtenu un procès au bout de 15 ans, qui s'est tenu l'année dernière. Et pour une raison technique, le policier mis en cause est toujours en liberté et continue à exercer ses fonctions.
Que la lucha y la organización es lo único que no hacen, digamos, que quede impune tanta, que no haya tanta impunidad.
Tout ça pour dire à la famille et à toutes les personnes de Villa Carlos Paz que la lutte et l'organisation sont les seuls moyens de réduire l'impunité. Tout au long de cette bataille, on est passé par différentes situations de menaces envers les voisins, les parents ou la famille de David Moreno, etc. etc. Il faut aussi dire que dans la majorité des cas, on voit clairement, disons, les complicités avec le pouvoir judiciaire. C'est pour ça qu'on dit que c'est une politique d'État. La répression a pour cible tous les jeunes entre 15 et 25 ans, malheureusement.
Dans le contexte actuel là, de la Journée internationale des droits des femmes, il faut souligner aussi que la répression, elle n'est pas uniquement contre les secteurs organisés, comme des meurtres lors de mobilisations, par exemple. Elle n'est pas non plus seulement contre des gens pauvres, ou comme ça peut être le cas dans les affaires de gâchette facile, ou comme ça peut être le cas dans les affaires de disparition. Mais l'État y réprime aussi les dissidents et y réprime les femmes. À la Corepi, on analyse les féminicides et c'est désespérant la quantité de faits dans lesquels les flics usent leurs armes pour assassiner leurs femmes, pour assassiner leurs enfants. Parce que c'est aussi du féminicide, en fait, quand les flics utilisent leurs armes pour discipliner leurs femmes, pour démontrer leur force, pour assassiner leur famille entière avec cette arme toujours que leur donne l'État. Donc on en revient toujours à insister, c'est l'État qui a la responsabilité de dire, de savoir, de dénoncer, qui devrait en tout cas juger ses propres forces. Mais en fait, on dit aussi que si on a l'espoir que l'État fasse tout ça ou que le prochain gouvernement qui arrive le fasse, il ne va jamais rien se passer. L'organisation, elle doit venir de la population. Il faut qu'on soit dans les rues, il faut qu'on se souvienne chaque année de Franco, parce que sinon la justice, elle va étouffer l'affaire, ou alors elle va donner une petite peine, et après, qu'est-ce qui se passe? Ils continuent à tuer des gamins. Nous, ce qu'on amène à la Corepi, surtout, c'est des outils pour s'organiser et lutter contre la répression. Alors, on a une page, c'est www.corepi.org, où vous pouvez suivre ce qu'on fait, où vous pouvez chercher des faits, nos contacts. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Et n'hésitez pas à aller choper le rapport. Vous pouvez le télécharger gratuitement depuis la page, ou sinon, vous pouvez aussi l'acheter en version papier.
Malik Oussekine, Macomé, Amin ou Lamine, autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. Tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute, la police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent « mais que fait la police ?» nous répondons
« 18 morts par an, qui osent encore parler bravure et mentir aux parents ?» Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur. 13, 12, c'est nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures. Passe droit systématique, car le problème est structurel. La police ment sous serment, la justice est sous tutelle. L'institution par définition et par nature cruelle, la police tue à tue-tête et en plus elle fait du zèle.
Une fois n'est pas coutume, 100 fois c'est l'habitude. Lassitude, l'impunité nous rend taciturne. Amertume, l'état d'urgence si t'as pas de fortune. Accable dans la tribune, nique la baque au coin de ma rue. Flashball sur nos figures, manif et point de suture. Massifs sont les bavures, injustice en couverture. Steve, signé des bounades, sont pas des procédures. Rémi, c'est vrai qu'il y a ta main, la police tue.
La police tue, ce n'est plus un secret pour personne. Depuis que les images circulent à travers tablette et smartphone. Pourtant ça fait un bail. Ah ouais mon vieux, depuis le temps que la vraie racaille se cache derrière des non-lieux. Excusez-moi du peu, mais je ne fais qu'exposer les faits qui foutent le feu dans mes artères à m'en exploser les veines. Je dédie ces quelques vers aux familles des victimes. Lâche un gros glaire sur ces keufs qui jouent les victimes.
Devant une personne âgée ou un gamin de la tête, regarde, il propage la guerre en tant gardien de la paix. On écrit gras, tu voudrais qu'on police nos vers. Le caractère de la police influe sur notre police de caractère. Tu dis qu'il n'y a pas que des garibous parmi tous ces types. Mais le bon flic a frappé jeune vieille, va-t-il pousser Steve? Ni tenant Paris sous les tirs, ils ont fait nous des quilles. Encore pire quand tu t'appelles Naïm ou Malik ou c'est qui?
Le plus souvent, noir ou arabe de cité, dépité par les juges, leur cécité répétée. S'organiser pour la vérité nécessité. Des campagnes aux quartiers confinés, cités. Des terres alors prend la rue et crie bien fort. Anticapitaliste, antifa, anti-port. Ensemble on peut conjurer le mauvais sort. Du pays du dedans à celui du dehors.
Yeah, j'dis c'est que nos proies bras, du quitté au broc. Ça veut briser nos blocs, remixer le 17 octobre. Viser le pogrom, le racisme est colossal. Police, militant, notre raciste et colonial. J'pas de rôle social, peu importe qui en est des gentils. L'État les fera tirer pour protéger les nantis. Puis les fera quitter, t'espère transformer les flics. Ma naïveté m'a quitté près d'un transfo électrique.
Rien ne se perd, tout se transforme. Donc leur violence deviendront des projectiles qu'on lance. Fort sur leur uniforme, unique forme de réponse. Tant que la justice les soutiendra, et on se souviendra du bruit du port lorsque le schtroumpf viendra. On trouve plein de rats en bleu qui kiffent se défouler sur les frères. Quand tout pètera, c'est le shérif qui sera bouffé par les verres. Je veux pas que mes petits poussent là où les Schmitts prennent pour des GI. Une pensée aux victimes cool, stress 12 NODJA.
Buenas noches.
Bonsoir.
Bueno, primero, Tout d'abord, j'avais envie de remercier la famille de Franco pour la force, le courage et l'amour qu'ils continuent d'avoir au-delà de leur douleur, et pour leur volonté de sortir dans la rue et de lutter pour leur fils. Parce que tous ces jeunes qu'ils nous ont tués, ce sont nos jeunes, ce sont notre jeunesse. Et toutes ces situations, ce n'est pas des situations individuelles, c'est des situations qu'il nous faut traiter collectivement. Et les familles qui s'engagent là-dedans seront toujours accompagnées. Et donc c'est pour ça que je tiens à remercier la famille de Franco, parce que toutes les familles ne décident pas de s'engager sur ce chemin de la lutte pour plein de motifs différents qui sont tout à fait compréhensibles. Mais du coup, c'est d'autant plus précieux. Bon, et donc, ils l'ont dit dans la présentation, je suis avocate du FOCOF, et donc j'ai été invitée de par mon rôle professionnel dans le champ des luttes populaires. Et donc l'idée, c'est d'expliquer un petit peu que quand on dit que la politique de la gâchette facile, c'est une politique d'État, ça veut dire que c'est pas uniquement l'institution policière qui est impliquée dans ces crimes-là et dans ces modes d'action répressive. Et donc c'est en fait imbriqué dans tout un réseau d'entraide et d'implication qui sont entremêlés dans cette optique-là.
En esto, uno de los fundamentales es el poder judicial.
Et donc, un des éléments de ces rouages-là, c'est le pouvoir judiciaire, qui n'est pas forcément le pouvoir qu'on voit en premier dans ces situations. Mais récemment, avec ce qu'ont dit la ministre Bullrich et le président Macri, on a pu constater, et ça a été montré à la face du monde entier, qu'il s'agissait d'une politique d'État et que c'était une politique de blanchiment de ces crimes. Et donc, ça nous donne raison sur le fait que ça existait bien. Ça montre bien que c'est quelque chose de réel, de planifié, de systématique, et tout ça signifie que c'est une politique d'État.
En este sentido, en los procesos judiciales que al menos...
Et donc dans tous ces processus judiciaires dont on a connaissance dans la province de Córdoba, et plus encore dans la ville de Córdoba, quand on analyse un peu les causes et comment sont conduits ces processus judiciaires, on voit bien que la complicité est flagrante. Pour comprendre un petit peu, il faut savoir que dans la procédure pénale, il y a deux étapes. J'ai pas envie de vous ennuyer, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc il y a d'abord l'enquête, et après il y a le jugement.
L'investigation est fondamentale, parce que le fiscal tiene que acumular la prueba.
Pendant l'enquête, le procureur doit réunir des preuves. Et pendant cette phase-là, c'est très important la catégorisation qui va être utilisée, parce que c'est ça qui va définir la peine encourue. Et donc dans la majorité des cas, ce qui se fait, c'est qu'on qualifie ça d'homicide simple. Et donc il y a eu un cas, il n'y a pas très longtemps, à Córdoba, Raúl Ledesma, du quartier Los Cortaderos. Il a été assassiné dans des conditions très très similaires à l'assassinat de Franco. Il a enfourché un scooter juste après avoir commis un vol. Il s'est enfui et en fait il a reçu un tir dans le dos. C'est une policière qui a tiré, caporal Carla, caporal de premier grade. Et donc la première qualification qui a été donnée par le procureur, ça a été homicide simple. Et la seule circonstance aggravante qu'on a apportée, c'était que le crime avait eu lieu par arme à feu. Et donc ce que ça implique, c'est que la peine encourue n'est pas la même que si on avait aussi ajouté la circonstance de homicide par une personne dépositaire de l'autorité publique. Parce que dans ce cas-là, la peine encourue, c'est la perpétuité. Ce à quoi ont été condamnées les personnes qui ont tué dans les mêmes circonstances Guerre Perico, qui venait aussi du quartier Los Cortaderos. Et donc c'est totalement incompréhensible de se dire que pour certains crimes, on ajoute la circonstance aggravante de personnes dépositaires de l'autorité publique, et pour d'autres crimes similaires, non. Parce qu'un policier, une policière, ne cesse jamais d'être ça. Et ça, c'est inscrit dans la loi qui réglementent la fonction de policier. Ces personnes sont policiers 24 heures sur 24. Et c'est pour ça que ces personnes portent une arme, c'est pour ça que ces personnes assassinent.
En ce sens, les investigations ont des directives très claires.
Et dans le cadre des enquêtes, il y a des consignes qui sont très claires. Le but, c'est d'accumuler des preuves pour pouvoir criminaliser la personne qui vient d'être assassinée. Le but, c'est de justifier cet assassinat pour pouvoir dire que, d'accord, c'est mal, mais il y a des raisons à cela. Et donc surtout, ne pas se poser la question des problématiques de l'utilisation de la répression dans la province de Cordoba. Une autre méthode qui est utilisée dans ces cas-là, c'est d'utiliser le prétexte de la légitime défense. Et normalement, la légitime défense, c'est une qualification qui est très stricte et qui donc doit répondre à plusieurs critères bien précis. Et donc, si on répond à tous ces critères, c'est la seule manière de pouvoir ressortir libre après avoir commis un homicide. Dans les années 90, c'était une qualification qui était très utilisée par le pouvoir judiciaire. Ces dernières années, dans la province de Cordoba, il y a très très peu de cas d'assassinat qu'on arrive à amener jusqu'au jugement. Et la plupart de ces situations, en fait, restent bloquées à l'étape de l'enquête. Et donc, pendant tout ce processus, les policiers, ils sont toujours libres. On fait comme si ces policiers, ces policières n'étaient pas en mesure pendant ce temps-là d'intimider, de menacer, d'entraver le processus. Parce que pendant toute cette étape de l'enquête, là, les policiers, c'est eux qui sont au quotidien dans les quartiers, c'est eux qui font les enquêtes et c'est eux qui font leur rapport au tribunal. Donc c'est flagrant l'influence qu'ils peuvent avoir. Et donc pendant tout ce temps, ils continuent à être policiers, ils continuent à porter leurs armes, ils continuent à toucher leur paye, ils continuent à être en liberté, avec tout le risque que ça engendre sur la façon de mener l'enquête. Dernièrement, la ministre Bullrich, ce qu'elle a dit, et comme vous l'avez tous entendu dans le cas du policier Etchocobar, elle a dit qu'il était dans l'accomplissement de son devoir. Et donc, par ses paroles, quelque part, elle induit auprès des juges la qualification qu'ils doivent donner à ce meurtre. Parce que prouver que la personne était dans l'accomplissement de son devoir, c'est vachement plus facile à prouver. En tout cas, c'est beaucoup plus facile que de prouver la légitime défense. Il était en uniforme, il portait son arme, il a vu un acte délictueux, ou du moins, il a cru voir un acte délictueux, et donc, il a fait usage de son arme à feu. Mais bon, comme disaient les camarades de la Corépi, dans un assassinat commis par des policiers, on n'agit pas de la même manière que dans le cadre d'un assassinat commis par n'importe qui. Parce que là, on parle d'un fonctionnaire, d'un représentant de l'autorité publique, on parle de devoirs, on parle de limites à ces devoirs, on parle de réglementation, et on va même jusqu'à parler de codes internationaux qui réglementent. Et il y a un code éthique qui émane de l'ONU qui cadre les possibilités d'agir des personnes qui portent une arme à feu, qui font partie des forces de l'ordre, et ça pour tous les pays qui sont membres de l'ONU.
Nosotros como Córdoba tenemos ese código dentro de nuestro orden normativo, es decir que deberían cumplirlo. Hay leyes nacionales sobre la conducta policial y una ley provincial sobre la conducta policial.
Et donc nous à Córdoba, ce code éthique fait partie intégrante du cadre normatif de notre province. Il y a des lois nationales qui régissent le corps policier, il y a des lois provinciales, et toutes les lois là dont je viens de parler, les juges, les procureurs, on a l'impression qu'ils ne les connaissent pas. Parce que jamais, jamais, ils ne font référence à ces lois qui sont pourtant applicables à tous les policiers de notre province. Elles ont des obligations, toutes ces personnes-là, parce qu'elles sont représentantes de l'État. Et les policiers n'échappent pas à cette règle-là. Et donc, dans le cas de l'utilisation de leur arme à feu, ils ont plusieurs possibilités de conduite à tenir. Et la dernière des dernières, c'est l'usage de leur arme à feu. En dernier recours, uniquement si leur vie est réellement mise en danger. leur vie ou celle d'une tierce personne.
Esto obviamente no lo están teniendo en cuenta fiscales y jueces y como decía, pocos juicios han sido elevados. Por ejemplo, el de Huelpe de Chico.
Et donc ça, on voit bien que procureurs comme juges n'en tiennent pas compte. Et donc, comme je le disais précédemment, il y a eu quelques cas qui ont réussi à aller jusqu'au jugement. Par exemple, le cas de Huelpe de Chico, le cas de Franco Amaya, ou pour lequel on est encore en attente de date, le cas de David Moreno, où les personnes ont dû lutter pendant 15 ans pour obtenir un jugement. Mais il y a des milliers de cas. Et seulement quelques-uns arrivent jusqu'au procès. Et comme par hasard, mais c'est pas vraiment un hasard, les seuls cas qui arrivent jusqu'au procès, ça concerne des personnes qui étudiaient, qui travaillaient, qui avaient un environnement social stable, c'est-à-dire des personnes qui répondent à certains critères moraux plus respectables pour notre société. Par rapport à d'autres gars qui ont eu d'autres vies, qui ont vécu dans un environnement familial autre, qui habitent dans tel ou tel quartier, qui ont tel ou tel âge, et donc qui ont des antécédents. Et donc, le fait que l'assassinat soit commis dans un contexte de vol ou de supposé vol, ou dans le cadre d'une fugue après avoir commis tel ou tel délit, ce simple fait suffit à la société et au pouvoir judiciaire pour justifier cet assassinat. C'est comme si la vie de ces personnes-là valait moins.
El poder judicial no escapa a la sociedad de la que todos somos parte. No escapan los prejuicios que podemos tener todos los que tienen ellos y mucho menos porque realmente la mayoría de los miembros del poder judicial pertenecen a una clase media alta.
Et le pouvoir judiciaire n'échappe pas à ce jugement moral partagé dans la société dont il fait partie. Ils n'échappent pas aux préjugés que tout le monde peut avoir, sauf que la majeure partie des gens qui font partie de ce pouvoir judiciaire appartiennent à la classe moyenne supérieure, avec certaines valeurs partagées, un certain niveau social, avec une certaine vision de la population qu'ils sont amenés à juger. Et donc les juges n'échappent pas à tous ces préjugés au moment où ils doivent qualifier un crime ou juger d'une situation. Et c'est pour ça que la lutte dans la rue est hyper importante. Parce que je peux vous assurer que dans le cas par exemple de Huelpe de Chico, s'il n'y avait pas eu des gens à descendre dans la rue, jamais ce cas n'aurait été porté devant une cour de justice. Tout comme les 15 ans de lutte acharnée qu'il y a eu dans le cas de David Moreno pour atteindre le procès. Et on peut avoir le meilleur avocat, la meilleure avocate, s'il n'y a pas de lutte dans la rue, on n'atteindra jamais le jugement qu'on espère pour la situation pour laquelle on lutte. Mais d'un autre côté, et c'est pas à sous-estimer, il faut garder en mémoire et se rappeler des noms de tous ces gars et toutes ces filles qui se font assassiner et les dire et les redire de manière acharnée parce qu'il faut porter ce message-là au-delà même du fait d'avoir une condamnation ou pas parce que le but, c'est bien qu'il n'y ait plus d'assassinat de la part de l'État.
Ils ont dégainé les LBD. À chaque manif, j'ai la boule au ventre et un air effrayé. Force aux mutilés, combien qu'on accable pour s'être mutiné auprès du capitaine Akab. À tous les anonymes, tous ceux qu'on connaît pas, y'a pas de place au débat. Alors ne vous étonnez pas si les cocktails et les pavés nous servent de sentence. Car quand la justice n'est plus, il ne reste que la vengeance.
On parle plus de faits isolés mais bien d'histoire de France. J'en ai noirci des pages depuis ma première marche blanche. Il y a déjà 20 ans à Lille, un triste mois d'avril. D'une balle dans la nuque, un brigadier tuerie Adam Laoui, encore un jeune buté gratis. Un flic muté à Nice, une justice complaisante. Toute une ville brûlée à vif. Tu réalises qu'en vérité l'histoire ne fait que bégayer. Qu'il faut encore batailler pour voir leurs machines s'enrayer.
C'est l'heure de combattre les élites, leurs séides et ceux que nous nommons j'tard. Aucune bavure, c'est que des crimes dont ces raclures sont responsables. Démocrature, violence systémique, j'hais et Schmitt comme des bourreaux de longue date. Au mic, j'suis abrupt, intrépide, et le foie de mes ennemis, c'est le fourreau de mon sable.
Alors, des corps on les s'embrase. Peu respire, ce qu'on demande c'est d'avoir une police sans armes. Et le mot que j'ai griffonné dans le sable, tu t'indignes, sans cesse contrôlé par un flic qui connaît ton blase. Pas de ceux qui rigolent des temps graves, les sœurs et les frères en ont marre. L'État se radicalise donc obligé de mener la guerre à notre tsar. Bien sûr que je rêve d'autre part, mais pour l'heure je reste à la ville. Trop d'amis s'y sont marqués par la vie, les aider le rôle que je donne à mon art.
Ils ne protègent pas le peuple mais l'économie. Gère les décis comme dans les colonies. Formés au racisme, à la xénophobie. Tu cherches des bons keufs, mate la rubrique nécrologie. Et rien à foutre si mes écrits choquent. Ils nous aiment pas mais c'est réciproque. On n'a pas attendu Snapchat et Periscope pour savoir qui est à l'origine de toutes les discordes.
Je connais le bruit des balles mortelles, le bas des bottes. La chasse à l'homme dans les barrios, les petits ramassés par les porcs. Les sauvageries de la BAC, les poucaves, les villes-ci. Les jeunes qui le tuent et prennent la femme pour faire le ménage sous leur tapis. Tu t'entendras tous les mensonges dans les musiques, les conneries dans le JD. Le confort des nantis, les charters affrétés. L'histoire d'Irak c'est pour la paix, le front la France des colonies. Au front ça tape la garde à vue, la zone c'est ça tu le gardes à vie.
Tout si je suis à Madoukoumé, je suis là pour dénoncer les meurtres que la police commet, les crimes que la justice omet. Que veux-tu faire quand le racisme a un uniforme bleu qu'il souffle sur les braises pendant que les miens ne cessent de crier au feu. Pour un débit de sale gueule, tu pourrais te faire fumer. Garde le sang-froid quand un poulet cherche à te déplumer. Et pour nos morts, on ne cessera de pousser des cris d'indignation face au silence de ce pouvoir qui ne fait que raviver les tensions.
Ce serait trop facile de crier, nique la police. Mais tout le monde aime la facilité. Majeur en l'air, balance des phoques, quitte à s'en mordre les doigts. Pas de solution, pas de justice, reste la fatalité. Dans un combat où même l'estropié ne baissera pas les bras. La violence par la violence, la responsabilité reste en amont, sabre de guerre et la paix reste à l'écart. Et si le savoir est une arme, ils sont pas tous calibrés. Ou quand les forces de l'ordre deviennent la faiblesse de l'État.
Les apports sont les esquiveurs, mais peut-être bien que c'est ce qu'ils veulent. Sont plus que des bêtes videurs dans cet univers qui meurt. Tous ces êtres si moches, tous à protéger leur maître qui sonne. Le glace fièrement dans des conquêtes ignobles. Ils aiment la violence, ils sont devenus bâches. Toujours une explication parle de son bon usage. Tu finis ensemble même si t'es venu sage. Ces enculés voient les manifs comme un bonus d'âge.
On tire les cols, les cierges, la garde mobile. D'autres les appels, les poulagas, les keufs, les roussins ou civils. On prend les armes, le monopole de la violence légitime. On prend les larmes de ceux qui restent, hommage aux proches et familles de victimes. On les déteste sans distinction aucune. La police viole, assassine, les mutile. La justice est complice car elle acquitte en prime. N'attendez pas qu'on se taise car les dossiers s'empilent. Et que les futurs bâtards s'empressent par exarcrute dans cette école du crime.
Bon, je pense qu'on peut profiter de la présence des camarades pour ouvrir un espace d'échange et de questions, non? Ça vous va? Qui commence? Qui se lance?
Bonsoir. Ma question, simplement pour comprendre un peu mieux, c'est de savoir si la politique de l'État de discipliner au moyen des forces de sécurité est en corrélation avec la précarisation actuelle de la formation de ces policiers.
Sí, igual este nosotros en incluso en esa situación responsabilizamos al Estado.
Oui, de la même manière, sur ce thème, nous on accuse l'État. Parce que l'État, c'est la représentation par excellence du pouvoir exécutif qui, grâce à ses ministres de l'Intérieur, met en place les conditions de cette mauvaise formation que tu pointes du doigt. Mais pour nous, ce n'est pas une mauvaise formation. D'après nous, l'État, les ministres de l'Intérieur, les chefs de la police, ils les entraînent à tuer. Ils les forment pour être en capacité d'assassiner, pour pouvoir anéantir n'importe quelle personne qu'ils croisent. Et c'est pour ça qu'ils mettent aussi en avant, avec l'appui de la plupart des médias de masse, quand ces événements ont lieu, ils postulent qu'il y a eu des affrontements. Après, nous, en tant qu'organisation, et associés à beaucoup d'autres organismes de défense des droits humains, quand les familles nous contactent pour nous informer de ces cas, on se rend compte qu'on leur a tiré dans le dos. Dans la mesure où la personne courait ou, disons, était en train de fuir, elle se fait tirer dans le dos. Du coup, on ne pense pas qu'il y ait une mauvaise formation. Ils sont formés directement pour tuer.
On a par exemple un exemple assez récent, en fait, il y a quelques semaines, le cas d'un gamin à La Rioja qui était en formation de flic et qui est mort en entraînement, soi-disant, mais en fait, c'était de la torture. Et qu'est-ce que c'est qu'un entraînement comme ça, sinon un entraînement pour que ces mêmes gamins le fassent subir à d'autres? C'est des pratiques que, pour ce que ça nous coûte de réaliser, elles viennent de la dictature et elles se poursuivent encore aujourd'hui et elles sont solidement installées en démocratie.
J'ai juste une petite question.
Vous parlez d'une certaine quantité de victimes pour l'année dernière. Est-ce que vous connaissez plus ou moins le nombre de ces faits depuis le retour de la démocratie en 1983 jusqu'à aujourd'hui ? Combien il y a eu de victimes ?
À la Corepi, les premières années, moi, j'étais pas là et c'est difficile de trouver l'information, par exemple, des années 80. Mais on estime que la somme des affaires est plus importante en fait que toutes les informations qu'on a recueillies, notamment des années précédentes. Mais on recense 5462 cas depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui. Enfin, c'est pas jusqu'à aujourd'hui en fait, parce que c'est jusqu'à la publication du rapport, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière. Et le rapport est forcément plus à jour entre le moment où il a été écrit et aujourd'hui. Rien qu'à Cordoba, en fait, on a déjà 3 cas de plus. Et tous les ans, il y a d'autres cas qu'on apprend. Et d'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous sait, a des informations, sait quelque chose, rapprochez-vous de la Corepi et nous, on enquête et ça va s'ajouter, en fait, ces nouveaux cas s'ajouteront.
De quelle façon vous recherchez les données pour vos rapports ?
En général, ça tient beaucoup du travail des militants et des militantes. Il y a beaucoup de gens impliqués dans ce rapport. Et pas seulement les gens de la Corepi, mais il y a aussi beaucoup d'organisations qui apportent les données. Et puis, il y a aussi généralement un relevé d'infos dans les médias. La majorité du temps, les médias, ils vont t'informer d'une certaine manière, par exemple en parlant d'un cas d'affrontement, en titrant impunément l'article comme « mort d'un délinquant », par exemple. Et après, quand on creuse, on voit que dans l'affaire, il n'y a pas eu d'affrontement. L'autopsie révèle qu'il y a eu un tir dans le dos ou que, par exemple, le tir a été à bout portant ou à 1 cm de distance, qu'on n'a pas pu non plus prouver que l'autre personne était armée. Donc oui, il y a un gros travail qui est fait de relever dans les médias d'informations et après, il s'agit de récolter plus d'informations. Qui est la personne ? Quel est son nom ? Est-ce qu'il y a des témoins ? Par exemple, dans les mobilisations, sur le lieu des faits, ça aide énormément quand les gens s'approchent et disent « moi j'ai vu ça ce jour-là » ou alors « j'ai entendu ça ». Ça, c'est super important. Et de nouveau, l'organisation de la famille, l'organisation des amis, c'est hyper important pour pouvoir donner de la visibilité à ces cas. Parce que s'il y a quelque chose qui compromet une vraie justice pour ces affaires-là, c'est le manque de visibilité dans les médias dominants. La justice, elle va toujours essayer de dire que ce flic-là, il n'était pas bien, que c'était une brebis galeuse, ou parce qu'il était alcoolique, ou peut-être qu'il avait un problème de drogue, ou n'importe quoi. Nous, on insiste pour dire que non, c'est pas ça, c'est une politique de l'État. Et une politique qui se maintient, qui perdure, et qui, malheureusement, aujourd'hui encore, et pendant toute la période démocratique, s'amplifie.
Bon, salut. Il y a, des controverses sur le terme violence institutionnelle. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pourquoi il y a ces polémiques et pourquoi ce terme est aussi questionné ?
Bon, disons qu'entre les différentes organisations qui travaillent sur la défense des droits humains, on a effectivement des désaccords. En fait, il y a plusieurs analyses sur qui est responsable. Pour nous, comme le disait bien le camarade, c'est pas seulement le policier ou l'institution qui est responsable de tous ces assassinats. Il y a une politique d'État, clairement, il y a une politique d'État. Il y a un État qui est responsable. L'institution policière, en tant qu'institution, n'est pas autonome. C'est pas une institution qui gère seule et qui décide seule à travers ses chefs de police ou à travers ses commissaires. C'est une institution qui répond au pouvoir exécutif ou au pouvoir judiciaire dans ce cas. Ce qu'on dit, c'est que Le pouvoir judiciaire est complice du pouvoir exécutif et les ministres couvrent les auteurs de ces faits dans chacune des situations. Parce qu'on voit bien que quand il y a un meurtre policier, la justice n'avance pas. Et ça montre bien du coup qu'il y a une complicité du pouvoir judiciaire pour protéger les policiers qui assassinent. Du coup, c'est pas une violence institutionnelle, c'est une violence d'État. Cette institution répond à un État, elle répond à un pouvoir politique. Et un pouvoir politique complaisant, non?
Oui, alors pour ajouter quelque chose, nous, on n'est pas forcément complètement convaincus par ce terme de violence institutionnelle. On parle plutôt de répression d'État. Et cette répression, sa base fondamentale, c'est le contrôle social. Pour que tout ce système-là de mort puisse fonctionner, pour que ce système se maintienne.
La répression ne se da solo con asesinatos, sino con todos los métodos de control social.
Et donc cette politique répressive, c'est pas seulement des assassinats, mais c'est aussi tout un ensemble de méthodes de contrôle social. Et donc pour nous, ce terme de violence institutionnelle, ça nous paraît un petit peu gentil, quoi, par rapport à ce qu'est réellement la politique de répression d'État et ce fait de réprimer et d'assassiner ceux qui ne sont pas productifs, ceux qui entravent le bon fonctionnement de ce système-là, ou tout simplement les gens qui sont en trop. Parce que dans les paroles des grands de ce monde, ils le disent eux-mêmes, il y a des personnes en trop.
Tout travail d'investigation prend du temps et coûte de l'argent. Est-ce que vous avez des subventions officielles ou vous faites juste comme vous pouvez?
Non. La Corepi, c'est une organisation qui s'autofinance grâce à la vente de matériel et d'autres activités. On ne reçoit et on ne veut aucune subvention officielle parce que c'est l'État qui crée le problème qu'on essaye de combattre.
Ouais, nous, on soutient que l'indépendance politique, c'est-à-dire pouvoir jusqu'à aujourd'hui dénoncer ce qu'on a dénoncé, c'est lié à notre indépendance économique. Le travail de soutenir les organisations matériellement, c'est un travail hyper fort de militant, en fait, du militantisme. Et c'est grâce à cet engagement qu'on peut soutenir la lutte.
J'ajouterais que les gouvernements sont responsables. Parce que quand on parle de l'État, on oublie de dire qui est Schiaretti ou qui est Macri.
También hace que la gente cuando vota y cuando elige esta gente, porque si no.
J'ai l'impression que de les nommer fait aussi que quand les gens votent, ils peuvent mieux choisir. Parce que sinon, l'État, c'est une généralité qui, sans qu'on le veuille, masque les visages des personnes qui donnent les ordres. Et je pense que le parti Union pour Cordoba, qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans, est responsable des morts et qu'il faut nommer de la Sota et Schiaretti qui ont couvert et favorisé ces meurtres. Et à ce propos, je voudrais rappeler le cas de Jorge Reina, qui a été assassiné à l'intérieur d'un commissariat à l'âge de 17 ans. Et aucun des quatre policiers ne sont mis en examen, ni détenus, ni rien. Et je pense que c'est une des choses les plus graves qui soit passée à Cordoba.
No hablamos de los gobiernos, hablamos del Estado, porque es el Estado burgués el que crea la policía.
D'abord, nous, on ne parle pas des gouvernements, on parle de l'État, parce que c'est l'État bourgeois qui a créé la police. Et c'est cet État qui a besoin que les pauvres soient pauvres et que les riches soient riches. Du coup, nous, ce dont on a besoin de parler, de discuter, de réfléchir, c'est au final quel modèle de société on veut. Parce que si l'État il continue à être le bienfaiteur des entreprises privées, peu importe en fait qui administre, peu importe pour qui on va voter, parce que ça va se poursuivre en fait, c'est clair. Et de fait, on ne peut que constater que année après année, peu importe qui gouverne, les affaires, elles augmentent et elles augmentent. Et ce n'est pas une notion complètement hors sol ou englobante en fait, c'est l'État qui est réellement responsable, c'est l'État qui est au service de la richesse des grands propriétaires terriens, de ceux qui ont l'argent, de ceux qui oppriment la population. C'est l'État qui réprime, et qui réprime non seulement les gens organisés, mais qui réprime aussi, basiquement, les gamins parce qu'ils sont pauvres. Et ces gamins, demain, ils vont vouloir sortir de la pauvreté, en fait. Ils vont vouloir s'organiser et affronter cette politique d'austérité, affronter les mesures qui sont contre le peuple. Et c'est pour ça qu'on insiste sur l'État. Parce que c'est l'État qui met en place les conditions pour que la police, aujourd'hui, elle tue Franco, pour que demain, elle tue d'autres gamins et d'autres gamines. Et pour n'importe quel motif, en fait. Et après, le gouvernement, il va prendre la défense des flics ou il va ne rien dire, il va étouffer l'affaire. Et c'est vrai que c'est bien de nommer les gens qui sont aux affaires, en fait, qui sont à ces postes administratifs, qui sont placés politiquement à ces postes-là. Mais en fait, ce n'est pas de leur responsabilité personnelle, c'est une responsabilité de l'État.
Igual lo que dice ahí la compañera, digamos, en nuestra provincia, todos sabemos, digamos, que.
Et aussi, sur ce que disait la camarade sur la province de Cordoba, on sait tous que pendant les 20 ans du gouvernement de la SOTA, ils nous ont toujours vendu le fait que si on mettait plus de flics dans les rues, il y aurait plus de sécurité. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le gouverneur Scaretti fait lui aussi l'apologie de la politique de la gâchette facile. Quand il diffuse sa propagande en paradant à bord d'un gros 4x4 de la police et en augmentant le nombre de policiers, ils font des investissements. Il y a beaucoup plus d'investissements pour mettre des flics dans la rue que pour mettre des profs dans les écoles. On augmente les effectifs policiers, mais pas les effectifs de profs. Du coup, voilà, par rapport à ce que tu disais sur Jorge Reina, c'est aussi pour ça qu'on a monté une antenne de la Corepi ici. Et on insiste là-dessus. La situation est vraiment préoccupante, mais sans organisation, sans lutte et sans unité, on ne va rien obtenir. Et on ne pourra pas freiner tout ce qui est en train de se passer.
Ok, je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Merci aux camarades de la Corepi, à Victoria Silov.
Merci à la copie de Vija Carlos Paz et à Vijanos Radio pour avoir organisé cette discussion. Merci à Elsa, Blandine, Romain, Marion, Lou, Nico et Emeline pour les traductions françaises. Les rapports de la Corepi sont téléchargeables sur le site corepi.org. La chanson dont on a entendu les extraits s'intitule « 13 minutes 12 contre les violences policières ». Elle a été réalisée par 33 rappeurs et rappeuses et a été publiée le 13 décembre 2020 à 13h12 sur le net. Les bénéfices de la vente du CD sont intégralement reversés aux familles des victimes de la police française.
La police tue, c'est pas le sujet que les infos diffusent, c'est la folie pure, cherche une autre issue, mesure d'étranglement, les noirs ou arabes en France, ils vivent dangereusement, contrôle de routine, personne pour secourir, comment dire à un proche, on a peur pour lui, bande de keufs pourris, bande de meurtriers, j'éviterai les insultes, pourtant le cœur y est.
Parce qu'il s'avère, servir les villes, c'est faux qu'une cerbère, ils rendent service à l'élite et c'est puissant le peuple, parce qu'ils peuvent tuer impunément, si on s'y fière d'eux, on devrait presque les remercier de se faire palper les yeux. Du plus haut grade jusqu'au trou de balle en quadrouille. Tellement vite de vie, même les darons en ont la trouille. Ne manque jamais l'audace, leur appeler à chaque quart d'heure. Tous les flics ne sont que des traîtres, puis j'en bave de rage.
J'suis grillé comme la Gaule dans un survêtre auto. Ou pire que ça, comme De Gaulle dans mon pays, le Congo. Ils jouent les Robocop, j'y ai goûté très tôt. Taser flash buzz pour National, course poursuite dans le ghetto. Ça me rappelle l'époque de Georgia, oh my man. J'écris allô, Marianne, ce lynchage, j'en ai marre. Vos étoiles sont profanes, ils le tient pas que gendarme. La seule police qu'on aime, c'est celle de Sting, Roxanne.
De nombreux psychopathes sur des gilets pare-balles. Des brutes épaisses pour protéger nos capitales. J'ai vu la peur comme outil politique fondamental. On assassine aussi bien avec des armes non létales. Avec un lanceur de balles, on ne fait pas dans la dentelle. Et les bavures ne sont jamais vraiment accidentelles. Au ministère comme à l'antenne, mensonge en permanence. Dans ses regards, ses silences, la police et la violence.
L'ami, je crois que c'est dans l'air, la violence. Faut que t'encaisses quand dans les magnifiques quartiers, la police se ramène et rapidement crée l'enfer. Les victimes, on les enterre. Mais qui ose nier le racisme alors pour un meurtre est un traitement exemplaire. Shoot les drones que l'on voit se pavaner dans le ciel. Tellement d'étoiles dans les yeux quand on voit que des gens se lèvent. Dis-toi que les concessions, on n'est pas prêt d'en faire.
Faut changer la police et pas dans le traitement.
J'attends que Tesler le prochain que son mental complexe. Qu'il verra les images et me dira qu'il a dans le contexte. Pitié, donnez pas d'armes à des mecs courés. Si tu vois un noir courir, c'est que c'est la mer courée. Parce que si tu n'as pas la gueule à Macaulay Culkin, ton meurtre par un bleu zélé sera pas reconnu comme crime. Payer des impôts pour se faire shooter, je suis confus. Imagine, j'ai l'impression de payer l'État pour qu'on me fume.
Qui parle encore de bavure, d'accident ou de maladresse, ils font juste leur boulot. La note s'aggrave et j'en vois trop petit. Qui passe à la caisse, j'allume un feuilles à chaque 13 décembre. La rime perce, défense, ça sera peut-être moi le prochain à me faire descendre. Et fais pas le commis master, rappelons les maudits parias. Le marine est rouchant dans tous les commissariats. Est-ce que tu sais comment ces batrains procèdent? Les meurtriers sont décorés comme des sapins de Noël.
J'ai pas vu la justice sous leur sapin de Noël. Mais la haine qu'on suscite quand on atteint nos rêves. Desserre les molaires, faut qu'ils prennent des molas. Pour plumer la volaille, je ferai du bénévolat. Et c'est plus grave, je connais le prix d'une larme. Combien au prix du grade et combien au tribunal. Non, je simule pas, ma haine est immuable. Mon âme est bien plus clean, même si j'ai la figure sale.
Faciès outrageant, versus monsieur l'agent. Race sera la proie, elle bronzée à toujours bon foie. Sous leur poids, tu meurs lentement, t'es plié, étranglement. Chasse à court, tu seras cobaye, par choqué par la flicaille. Il avait 20 printemps, voulait voir la mer. Dit tu es grand pour le faire taire, la prison l'enterre. Pas de justice, mais toujours suspect, victime sera le criminel. On reconnaît bien la griffe du colon sous bleur
et leur méthode est coloniale, le contrôle est racial. Maté l'indigène, le sauvage, l'animal. Chaque jour il te rappelle qu'ici c'est pas ton bled. Que ta couleur est trop laide, que ta présence les obsède. Et tu risques la hogla à chaque fois que tu leur tiens tête. Tu risques un tribunal à chaque fois que t'écris un texte. Tellement ils nous oppressent, tellement je me répète. Tellement ils nous agressent, tellement je les déteste.
Et on a répété, 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 répété. Ça use, 13-12 minutes de plus pour vous traiter. Ça fait pas de mal, nous on n'a pas de pare-balles. Ni les moyens de la juge pour enquêter.
Pour enquêter.
Ouais, qui vous raqueter? Des noirs et des arabes et quelques plans bien endettés.
Bien endettés.
Mandat de dépôt chez les suppôts de Le Pen. Générateur de peine et d'anxiété.
J'entends des All Life Matter, putain t'y es pas. Bien sûr toutes les vies comptent en fait, c'est même pas un débat. C'est pas dans quel état ça me laisse. Les choses ne peuvent pas changer si tu restes dans ton color blindness. Pourquoi tu fixes mon doigt quand je pointe la lune? Tu capteras peut-être plus vite avec un genou sur la nuque. T'entends racisme à toutes les sauces et ça dégouline dans ton fil. T'es fatigué d'en entendre parler, imagine ceux qui le vivent. Hey.
Tu sors de chez toi, les keufs te contrôlent à tort et à travers. Tout ça pourquoi? Pour un simple regard de travers de bord. Tu te retrouves au poste, là tu dis que c'est pas qu'un cliché. Tout ce que les rappeurs racontent sur les flics. Police, racisme et politique, vaste communicant. La prochaine pavure, tu crois que ça va se terminer comment? Come on, big, je suis pas né du dernier des camps. Pour moi, le préfet l'allemand, c'est juste le premier des cons.
Les directives viennent d'en haut d'une autre caste. Tombent en cascade sur les képis et les casques. Forcés à encastrer les leurs sans trop de questions. Les dirigeants cassent. La pression précède à l'oppression. La sanction dans les deux camps, c'est ça l'idée. Changer les termes, changer les mentalités. Le peuple doute de sa sécurité alors qu'il la paie. Les forces de l'ordre ont remplacé les gardiens de la paix.
Peut-on pardonner à un flic? Peut-on pardonner le racisme, les violences gratuites, les coups qu'on nous a donnés? Devrions-nous ne pas pleurer les victimes? Accepter le cynisme, fermer les yeux comme ceux qui nous dirigent. La police assassine, étrangle et prend pour cible les mêmes minorités que visent des discours politiques. Y'a pas d'hasard qui tienne, c'est volontaire et codifié. La violence légitime n'existe que pour dominer.
Hey Darmanin, check bien ton reflet dans les flaques de piste de Kavitchi. A plus ce monde t'a échoué par le trou de balle. T'es qu'un frotteur de bus, un pointeur de plus. On te fera glisser ton factus sec dans les amygdales. Le feu dans les bleus, les yeux dans les yeux. S'il pleut des trottinettes, c'est parce que la rue rejette le non-lieu, la banlieue au milieu. Logo zone commando, rate des villes radicaux. El pueblo unido déboulonne le comico.